Bonjour à tous et bienvenue sur Lusitania, votre émission d'Aligre FM dédiée aux cultures lusophones. Je suis Anna Rosera et épaulée par Armand Gury à la technique, je vous propose aujourd'hui une émission consacrée au parcours et à l'œuvre de Manuela Marques, photographe portugaise née en 1959, qui vit et travaille à Paris depuis plusieurs décennies. Arrivée à Paris pour étudier la littérature à la Sorbonne, Manuela Marques s'est progressivement tournée vers la photographie, où elle a construit une œuvre singulière et une carrière aujourd'hui reconnue et saluée en France, au Portugal, mais aussi dans de nombreux contextes internationaux. Preuve de cette reconnaissance, son travail fait aujourd'hui l'objet d'une monographie publiée dans la collection PH, collection de référence, dédiée au grand photographe portugais contemporain, édité par Imprensa Nacional Casa da Moeda. L'ouvrage, accompagné d'un préface de Teresa Castro, propose une plongée approfondie dans l'univers visuel et sensible de l'artiste. Si la photographie est une écriture de la lumière, l'œuvre de Manuela Marques est aussi, selon des mots de Teresa Castro, un art de l'attention. À travers la photographie, mais aussi la vidéo, elle développe une œuvre attentive au paysage, au rythme invisible, des lieux et à la manière dont le réel peut être déplacé, interprété et mis en scène. Son œuvre est diverse dans les objets choisis, la nature dans plusieurs de ses états, les arbres, la forêt, les paysages, le vent qui emporte des sédiments, des pierres, petites, grandes, immenses, les surfaces de l'eau, la nature réelle, et abstraite. Ou alors des objets méticuleusement mis en scène, cherchant une élégance dans leur forme, leur couleur et leur contraste. Et quelques humains, souvent seuls. Son attention se porte sur des éléments qui sont à la fois ce qu'ils sont et ce qu'ils pourraient devenir, des paysages lunaires, des miroirs, des reflets, des apparitions. Il y a dans son travail quelque chose d'insaisissable. Une sensation de présence ou de révélation, difficile à expliquer, mais qui est là. Entre repères historiques, géographiques et perceptions sensibles, Manuela Marques construit ce qu'elle décrit comme une nature autre, un théâtre du paysage où le visible dialogue avec l'invisible, le tangible avec l'insaisissable. Ces images, souvent silencieuses et énigmatiques, invitent à ralentir le regard et à habiter pleinement l'expérience de l'image. Nous sommes aujourd'hui à Paris, dans les studios d'Aligre FM, et j'ai le grand plaisir d'accueillir Manuela Marques ainsi que Teresa Castro, maîtresse de conférences en études cinématographiques et audiovisuelles et directrice de la délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian. Manuela, Teresa, bienvenue dans notre studio.
Merci.
Merci beaucoup.
Je suis très contente de vous avoir ici. Manuela, cette émission va partager avec nos auditeurs autre chose, d'autres détails de ton parcours et de ton œuvre. Et au début, vous êtes arrivée à Paris pour étudier la littérature et finalement, c'est la photographie qui s'est imposée. Que s'est-il passé ?
Eh bien, je crois qu'on a parfois des intentions de faire des choses et puis après il arrive qu'il y ait des sortes de glissements où parfois ce sont les choses qui sont un peu plus cachées qui prennent le pas. Et je pense que je crois qu'en fait la photographie, enfin l'image, la photographie a toujours été présente dans ma vie. D'une façon certes diffuse, mais en même temps suffisamment présente pour que je puisse avoir des souvenirs d'enfance liés à l'image ou aux images qui sont très forts. Et je pense que c'est effectivement cette espèce de choses ténues comme ça derrière des volontés affirmées d'étudier la littérature, parce que vraiment c'est ce qui me passionnait. Donc ce sont ces choses ténues qui finalement, ces fils invisibles qui finalement sont devenus plus importants et ont structuré, voilà, ont structuré d'autres intentions et d'autres désirs, en tout cas.
Mais comment ça s'est passé entre les partiels de littérature, vous commencez à prendre des photos, à faire des expos, à faire connaissance d'autres étudiants de photographie?
Pas forcément comme ça, non. Disons qu'il y a eu un moment où j'ai commencé à photographier, mais comme beaucoup de jeunes gens de sans doute, enfin en tout cas mes amis d'époque, certains faisaient aussi un peu la même chose. Et puis j'avais toujours un appareil photo sur moi. Voilà, tout simplement, je crois que ça m'accompagnait comme avoir un livre dans le sac. J'avais un livre et un appareil photo. Je crois que c'était vraiment des éléments qui accompagnaient un peu mon quotidien. Et puis après, j'ai installé un laboratoire, un petit labo, hein, minuscule, là où je vivais. Et puis je passais de plus en plus de temps dans la chambre noire. Et puis c'est devenu de plus en plus important. Mais enfin, tout ça coexistait avec beaucoup d'autres choses, avec beaucoup de visites d'expos, beaucoup d'intérêt pour l'art contemporain. Donc des années 80, 90, enfin voilà, enfin c'est la vie, quoi.
Est-ce qu'il y a eu un moment de révélation où vous êtes dit, en fait, je vais assumer que je suis photographe, ou c'était fait de façon plus fluide?
Alors moi, je suis effectivement photographe, mais je fais aussi beaucoup de vidéos, déjà pour donner un peu plus de détails à ce que je fais. Non, enfin, moi je crois que c'est très compliqué, et surtout très certainement pour les jeunes filles que j'étais et les femmes de ma génération, de s'affirmer artiste, de dire ah voilà, je suis artiste ou je suis photographe, c'était quand même, il y a eu des passages compliqués. Évidemment, je crois que maintenant j'espère que c'est plus simple, et je vois bien que c'est aussi plus simple, voilà, ce type d'affirmation de soi, ou de ce qu'on pense être soi, ou de ce qu'on veut faire dans la vie, tout simplement. Donc ça s'est fait très progressivement. Et puis disons qu'il y a eu des moments de ma vie où j'ai aussi habité dans des endroits qui étaient à plusieurs reprises, qui étaient comme ça quand j'étais jeune femme, dans des endroits un petit peu isolés. Et puis la photographie, le paysage, l'isolement, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus important et qui s'est affirmé. Enfin voilà, à un moment donné, je n'avais pas spécialement le désir en fait d'être artiste, parce que j'ai vécu longtemps en Andalousie, par exemple. Et je vivais dans un lieu où il y avait beaucoup d'artistes. Enfin voilà, ça faisait pas communauté du tout, mais enfin on partageait des espaces de vie. Il y avait beaucoup de peintres, il y avait des céramistes, il y avait des gens qui dessinaient, il y avait des occidentaux. Voilà. Moi, je voyais quand même à la fois la passion de ce qui les animait. Moi-même, je faisais aussi de la photographie. Et je voyais aussi la difficulté d'être de tout ça. Et je ne, à vrai dire, et pour voilà, j'avais pas spécialement, je me projetais pas vraiment là-dedans non plus, quoi. Mais à un moment donné, je crois que dans cette chose, on se dit bon, ok, ben voilà, je suis artiste. Ça s'est fait progressivement, parce que je ne souhaitais pas forcément avoir cette vie-là non plus.
Et la littérature?
Littérature, elle est présente tout le temps. Elle est présente tout le temps. Mais disons que elle continue à être présente, évidemment, même si, je lis moins maintenant que je ne lisais. Moi, j'avais une vocation qui était de faire de la linguistique. Voilà, c'était ma grande vocation. À ce moment-là. Mais j'étais aussi, je fabriquais des images, j'enterrais mes images dans la terre, dans des processus qui duraient des mois. Donc ensuite, je voyais comment, enfin, dans une espèce d'intuition, enfin, d'empirisme total, Je photographiais des paysages et ensuite j'allais enterrer les photographies dans les paysages. Et puis voilà, en plus j'allais les déterrer, je voyais ce que ça donnait. Donc voilà, j'étais déjà très très engagée en fait dans un processus d'artiste, tout simplement. Enfin,
et un chemin sans retour, visiblement. Il y a la présence des éléments naturels, et là vous venez de parler du paysage, de la terre, des intérêts. Il y a d'autres objets que je pense que vous donnez un contexte élémentaire dans l'image. Quand on voit des photos, des chaises ou des miroirs ou des portes, ça devient un élément, un protagoniste de l'image qui est très très fort. Et je voulais vous demander si, au début de votre démarche de quête, d'exploration de photos, vous avez déjà une orientation par ce type d'objet, ou c'est quelque chose qui était venu au fil du temps. Ce regard vers les éléments et des objets isolés comme ils sont parfois dans vos photos.
J'essaie de réfléchir un petit peu à comment c'était ces débuts, ce que je faisais vraiment. Mais je crois que ce sont un peu des j'aime beaucoup ces mises en scène fortuites, c'est-à-dire lorsque, et puis qui sont aussi des sortes de... Enfin, vous remarquerez qu'il y a... Enfin, moi, je trouve en tout cas que... Il y a souvent beaucoup de solitude. Enfin voilà, pour moi, c'est ces environnements, ces chaises ensemble, ces tables empilées, cette porte qu'on ne peut plus ouvrir, etc., sont vraiment des éléments un peu métaphoriques et sont vraiment des sortes de mise en scène comme ça qui... soit qui existe, soit que je fabrique. Voilà, ça c'est assez habituel dans mon travail. Et je pense que ça fait effectivement très longtemps qu'elles existent dans mon travail. Mais à savoir si c'était là depuis le début du début, je pense qu'elles faisaient partie comme beaucoup d'autres choses aussi, quoi. Voilà. Et je crois qu'après, le travail, c'est effectivement de décanter tout ça. Et de décanter, en fait... Ça, je pense, c'est un peu une formation d'artiste, évidemment, c'est d'essayer de trouver ce qui est important pour soi et ce qui est essentiel, et d'essayer de décanter un peu les modèles, les références, même si effectivement on travaille toujours avec des modèles et des références.
Absolument. Avant d'explorer un peu ça sur ces mises en scène de vos images et ces faux instantanés, je propose à nos éditeurs d'Aligre FM d'écouter une première proposition musicale que vous avez choisie, Meredith Monk, avec le morceau Traces.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Vous êtes sur Aligre FM, vous écoutez Lusitania, aujourd'hui avec Manuela Marques, photographe portugaise, et Teresa Castro, maîtresse de conférences et directrice de la délégation en France à la Fondation Gulbenkian. Nous sommes aujourd'hui pour parler de l'œuvre de Manuela Marques, et avant ce morceau de Meredith Monk, nous parlions de de l'effet de mise en scène dans les œuvres de Manuel et des métaphores qui sont derrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou même donner des exemples de ce type de métaphores?
Alors, des exemples dans mon travail de type de métaphore, moi je ne saurais pas vous dire comme ça immédiatement. Tout mon travail n'est pas de l'ordre de la métaphore, évidemment. Mais il y a des situations, par exemple, voilà, pour prendre quelque chose qu'on retrouve comme ça, qui ponctue mon travail et qui est visuellement assez simple, mais néanmoins pour moi, ça participe de cette, on va dire, d'un ordre un peu métaphorique des choses. C'est les situations des porteurs, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose que je fais depuis très longtemps, qui sont tout d'un coup des mains qui portent des bribes du monde, quoi. Enfin voilà, des petites choses. Voilà, ça pour moi, c'est vraiment de l'ordre de la métaphore. Bon, c'est une image qui est assez simple à comprendre. Et puis, finalement, voilà, ben, c'est juste une main qui porte quelque chose, qui porte, je ne sais pas, un peu de terre, une petite pierre, une feuille, que sais-je, ou des choses un peu plus innommables. On ne sait pas parfois ce que ces mains portent. Mais c'est vraiment d'un ordre métaphorique pour moi.
Il y a aussi la présence des éléments naturels, de l'eau, les pierres. Il y a des photos qui ont une présence minérale très très forte. Je pense à des photos qui ont été faites aux Açores, par exemple, et même ailleurs. Et quel est votre enchantement ou votre regard vis-à-vis ces objets?
Alors, il y a deux choses. Tout ce travail, hein, toute cette attention, comme dirait Teresa, elle est venue petit à petit. Et à un moment donné, parce que j'ai toujours aimé travailler en fait dans des endroits un peu isolés, etc. Je faisais référence à l'Andalousie tout à l'heure, par exemple. J'ai passé beaucoup de temps dans un endroit très isolé. Mais il y a eu plusieurs paramètres. En fait, le premier, c'est vraiment à un moment donné une décision. Là, ça participe de la décision de me dire que je n'allais fabriquer des images, entre parenthèses, enfin voilà, rendre des choses visibles par l'image, que en utilisant des choses qui sont immédiatement autour de moi et que je pouvais atteindre à pied. C'est-à-dire, je ne cherche pas du tout ni des situations spectaculaires, ni des lieux incroyables, etc. Mais juste aussi, ça me permettait de réfléchir à la fois de choisir, enfin de prélever, de choisir, d'être vraiment dans cette cueillette qui pour moi d'éléments, qui pour moi est un moment, mais vraiment incroyablement riche et qui fait vraiment partie, comme faire une photographie fait partie de mon travail d'artiste, c'est-à-dire ce moment-là, mais de me dire que vraiment ce n'était qu'avec ces éléments que j'allais faire des photographies. Et ça me permettait aussi, donc ça c'était vraiment une décision.
Comme une règle.
Un protocole de travail.
Un protocole
de méthode. Un protocole de travail. Ça, c'était ce protocole de travail. Je sais que j'ai commencé ce protocole de travail il y a vraiment, je crois que c'était en 2012 précisément. Voilà. Parce que j'étais à ce moment-là en résidence dans un endroit extrêmement isolé. C'est d'ailleurs pour ça que je suis passée au numérique à ce moment-là. Et voilà, et je me suis retrouvée dans ce lieu, dans cette, c'était comme une forêt, quoi. Et à ce moment-là, et j'étais seule, je suis, voilà, pendant des semaines et des semaines. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, et maintenant, quoi. Et maintenant, voilà. qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a éliminé les gens, enfin, toutes les choses comme ça qui sont de l'ordre, qui chopent un peu notre attention, voilà, et le mouvement des choses et tout, ben là, il y a quoi ? Là, il y a quoi ? Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à porter ce regard particulier et de faire avec ce qui m'entoure. Et évidemment, après, ça m'a porté, c'est-à-dire que ça, je crois que ça a un peu affiné mon regard d'une certaine façon. Et la relation, ça, j'en suis très convaincue. C'est-à-dire la relation que maintenant j'entretiens avec, avec les éléments naturels, quoi. Et qui sont l'eau, les pierres, le vent, l'air, voilà, quel qu'il soit, quoi. Je pense que là, j'ai une espèce de regard pas plus particulier.
Il y a quelque chose que vous aviez dit tout à l'heure, que c'est lié au spectacle.
Il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, que c'est lié à l'effet spectaculaire, que dans cette méthode, quelque part, vous évitez des démarches spectaculaires pour faire la photo, parce que tout est à portée de main, de votre main. Mais justement, je pense que dans cette simplicité, il y a des choses spectaculaires. Et par exemple, quand tout à l'heure je parlais de quelque chose d'insaisissable, là j'ajoute le spectaculaire à une œuvre, à une photo qui s'intitule « Le point de fuite », que c'est l'image d'un homme face à un horizon aquatique, d'un vert intense, presque surnaturel. Et c'est une œuvre qui évoque d'ailleurs très fortement le tableau « Le voyageur contemplant une mer de nuages » de Caspar David Friedrich, comme le souligne Teresa Castro dans son préface dans le livre « PH ». Je comprends que c'est à portée de main, mais c'est spectaculaire, ce vert, cette lumière. Vous avez pensé comme ça, cette image-là, ce vert, cette intensité ?
Alors, ce vert qui est incroyable, c'est une image d'un lac qui s'est installé dans le cratère d'un volcan éteint. Il y a une algue particulière qui, on a l'impression d'être devant quelque chose de phosphorescent, quoi. C'est un vert phosphorescent. C'est un vert qui est vraiment à l'état naturel et encore plus intense que l'image que j'en ai faite, quoi. C'est hallucinatoire, quoi. C'est hallucinatoire. Mais voilà, donc l'endroit existe. Mais évidemment que j'ai choisi un moment extrêmement précis et j'ai dû y retourner trois fois, je crois, trois ou quatre fois. Pour avoir ce moment précis où en fait la lumière, il fallait vraiment que j'y sois entre 11h, 11h30 du matin. Et évidemment, on a comme ça la lumière qui crée des ombres portées, des arbres, enfin voilà, ça fait basculer. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, ça fait basculer ce qui existe, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de photographier ce qui existe. De toute façon, c'est voué à l'échec, mais voilà, je crois que la photographie, c'est quelque chose qui est voué à l'échec. Hein. Si, auditeur, si vous pensez qu'en faisant une photographie, vous allez rendre compte du réel, d'une bribe, sans doute, mais pas plus. Mais en réel, le réel est beaucoup plus complexe que ça pour moi, et beaucoup plus riche et fuyant aussi. Hein. Mais cette chose-là, actuellement, moi j'ai une exposition à Fribourg en Allemagne, dont le titre est Périmètre de transformation. Et en fait, j'ai utilisé ce titre à dessein parce que, effectivement, moi quand je travaille, mon environnement, bien que la plupart du temps je ne travaille qu'avec des choses que je cueille, ramasse, etc., devient un périmètre de transformation. En fait, c'est ça qui m'intéresse. Évidemment, l'espace d'exposition, je me suis rendu compte que c'était aussi, devenait aussi un périmètre de transformation. Donc, voilà. Donc, en fait, ce que je montrais et l'espace dans lequel c'était montré faisait écho, en réalité. C'est pour ça que... Mais je me suis dit, ah oui, périmètre de transformation, c'est... Je pense que je travaille comme ça. C'est-à-dire que à partir des éléments qui sont là, ou qu'il faut que je cherche, à un moment, je cherchais des pierres, et des, voilà, des pierres où il devait forcément y avoir un trou, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Donc, il faut le faire tous les jours un peu ou beaucoup. Mais bon, voilà, c'est, je pense que je travaille avec cette chose qui est vraiment de pas forcément rendre compte de ce qui se passe. Voilà. Après, je peux aussi travailler avec... en laissant les choses là où elles sont et juste en faisant une image. Parce que là où elles sont, moi, je peux pas faire mieux. Elles n'ont pas besoin d'être transformées par l'image pour exister. C'est-à-dire qu'en fait, tout existe déjà. Mais voilà, donc il y a une espèce de va-et-vient. C'est ça, il y a une espèce de va-et-vient comme ça.
Et dans une autre approche de celle de Point de Fuite, dans la série Records, où vous travaillez à partir d'archives de papier fumé utilisés par les appareils sismographes des années 80, j'imagine, 70, qui enregistraient les mouvements de la Terre. C'est une autre démarche, j'ai ressenti, en fait. C'est quelque chose qui existe, mais votre regard et les grands formats révèlent autre chose. C'est le trajet, la trace fumée dans un papier, les mouvements de la Terre. Encore une fois, c'est quelque chose d'insaisissable. On ne peut pas saisir la fumée, on ne peut pas saisir les mouvements de la Terre.
Eh bien, justement, c'est ça qui m'intéresse. C'est d'essayer, par moment dans mon travail, hein, pas pour tout mon travail, mais pour une partie de plus en plus importante, c'est d'essayer de saisir l'insaisissable. Alors, c'est par exemple faire des images en lumière du jour, parce que je travaille essentiellement en lumière du jour. La plupart du temps en été, parce que c'est là où j'ai vraiment avec des lumières très fortes du soleil, et par exemple essayer de rendre compte donc du spectre lumineux qui vient taper sur quelque chose de précis, mais à travers des filtres que j'agite devant, par exemple. Donc ça me permet d'avoir par exemple des surfaces colorées, mais en fait ces surfaces colorées, c'est juste le soleil, enfin les rayons du soleil, du spectre, qui passent juste à travers un filtre. Et bon, voilà, il y a des tonnes de choses comme ça que j'utilise.
D'artifices.
Oui, voilà, de filtres pour essayer de rendre la chose, de matérialiser des choses qui, par essence, ne sont pas saisissables. C'est-à-dire que, voilà, jusqu'à présent, heureusement, on ne peut pas encore concentrer la lumière du soleil dans une boîte, quoi. Donc moi, j'essaie de la faire se concentrer dans cette boîte qu'est un appareil photo, mais à travers autre chose, quoi. Voilà, donc ça donne... Ou alors travailler avec le vent, beaucoup. J'aime beaucoup l'effet du vent sur les éléments que je photographie.
Il y a des vidéos aussi.
Oui, beaucoup de vidéos avec ça. Des choses qui actuellement ne sont pas montrées, mais voilà, il y a toute une série comme ça d'éléments... de films où le vent est vraiment un grand acteur.
Voilà. Élément insaisissable par définition.
Absolument. Et cette série dont vous faites allusion, les Records, qui, en fait, moi, la question qui est très simple, c'est comment est-ce qu'on enregistre finalement quelque chose qu'on ne peut pas... Enfin, dont on peut sentir les effets, évidemment, parce que quand il y a un tremblement de terre, effectivement, quand il y a un tremblement sismique, évidemment que même physiquement on sent les effets, mais et la question venait de là, de comment finalement peut-on matérialiser une onde sismique.
Aligre FM 93.1.
C'est très intéressant et je voudrais justement proposer à Thérèse de réagir à cette idée de l'œuvre de Manuela Marques qui essaye de saisir l'insaisissable, d'une photographie qui transforme le réel. Les matières, on le sent que les matières changent presque d'état. Vous écrivez par exemple, Thérèse, que le minéral devient végétal et le végétal devient minéral. Comment expliquez-vous, sentez-vous cette capacité des images de Manuel à déplacer notre perception ?
Oui, effectivement, pour moi, une des forces du travail de Manuela, c'est vraiment de nous faire parfois voir comme si on voyait pour la première fois. Les choses semblent vraiment transformées par sa pratique photographique. Donc, pour moi, ça condense en fait aussi une des puissances de la photographie, qui est de nous faire regarder et découvrir le monde autrement. Voilà. Et donc pour moi, les images de Manuela ont effectivement cette capacité à nous dévoiler le monde à partir d'une une perspective qui pour moi parfois rend les choses presque magiques. Il y a comme une sorte de d'énergie ou de magie qui entoure en fait ces choses qui peuvent être parfois ça peut concerner que des pierres, on dirait, ou un mur de pierre, ou une façade, des effets de lumière, une chaise posée quelque part. Et en fait, la photographie est capable de retenir notre attention et de nous faire voir cette chose comme si on l'avait jamais vue. Et notre regard s'attarde, se détient en fait sur ce qui est photographié. Et donc c'est ce que j'entends par transformer le réel, c'est-à-dire le réel est partout, c'est-à-dire nous sommes dans le réel. Et quand on regarde une image de Manuela, je trouve que ce réel est transformé, sublimé par une sorte de magie en fait de la photographie. Pour moi, le travail de Manuela vraiment a quelque chose de cette capacité magique de la photographie, quelque chose de très ancien qui tient à l'idée aussi de révéler, révéler en petit secret qui est partagé avec nous. Donc c'est particulièrement aussi enthousiasmant parce qu'on se sent un peu on sent qu'on a partagé quelque chose avec nous qu'on n'avait pas vu qu'on découvre.
Et c'est très intéressant cet effet de révélation parce qu'on vient de comprendre, d'apprendre que cette révélation, elle est aidée par ces mises en scène, ces filtres, ces astuces de photographes pour nous révéler ce côté magique. Et je rejoins cette opinion parce que quand on voit le verre de point de fuite, quand on voit les séries Records, il y a quelque chose de magique. Je peux me reconnaître. Et Manuel, est-ce que tout ça, vous avez parlé tout à l'heure d'une méthode et d'un protocole de travail, mais l'idée de créer, de mettre en scène ces métaphores, est-ce que c'est quelque chose de naturel? C'est quelque chose que vous vous réveillez le matin et vous vous dites c'est intéressant, aujourd'hui le soleil il est joli sur cette feuille, je vais explorer. Ou alors c'est autre chose que vous travaillez de façon plus méthodique avant?
Non, il n'y a pas de méthode. Je me réveille pas le matin en me disant « Ah tiens, là, non, pas du tout. » Mais j'ai du désir de travail. Enfin, ou parfois, j'ai une image précise et je me dis « Tiens, alors je note, évidemment, parce que... » Et je me dis « Tiens, j'aimerais beaucoup réaliser cette image. » Là, par exemple, j'ai des images que j'aimerais réaliser cet été, quand le soleil reviendra. Donc voilà, j'ai des désirs de travail, donc je sais ce qu'il me faut pour les réaliser, mais ensuite, ces choses-là, évidemment, elles seront ce qu'elles seront, quoi. C'est-à-dire que moi, j'essaie de maîtriser le plus possible la prise de vue, etc. Mais après, il arrive beaucoup de choses pendant ces prises de vue. Et parfois, ce qui arrive et qui est inattendu, ça, c'est ça qui devient intéressant. Donc il faut vraiment... Et moi, j'ai tout à fait cette souplesse de ne pas être rigide par rapport à ça. Au contraire, de laisser aussi les choses devenir ou se faire... soit parce que lumière ou vent ou je ne sais pas quoi ou pluie, soit parce que tout d'un coup ça tombe et ça devient plus intéressant. Enfin voilà, j'aime beaucoup le l'incident ou l'accident qui vient perturber mon intention de départ, quoi. Et je sais qu'entre le désir que j'ai de réaliser un certain type de travail Et ensuite, ce que c'est, ce que ça devient, forcément, il y a un écart, quoi. Voilà, il y a un écart auquel je me soumets avec grand plaisir.
Thérèse parle dans son texte que votre œuvre c'est un art de l'attention. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui. Je suis d'accord et j'ai été très émue lorsque Teresa m'a envoyé son texte. J'ai été extrêmement émue et je profite du fait qu'elle soit là pour la remercier encore de l'attention qu'elle a eue avec mon travail. J'ai été très émue parce que c'est vraiment, je crois que Teresa, elle a perçu dans mon travail des choses que très peu de personnes... arrivé à mettre des mots qui me semblaient justes sur ça, sur mon rapport, la photographie est juste un intermédiaire, quoi, pour moi, et effectivement ce protocole de travail que j'ai mis en place, enfin quand je dis protocole ça semble comme ça très sérieux, mais on va dire plutôt une intention de travail, quoi, plutôt, voilà, une démarche dans le travail plus que protocole qui a un côté je pense que c'est peut-être pas le mot exact, à développer, effectivement, je pense que j'ai dû parler un petit peu de ça au début, à développer, à affiner la relation que j'essaie d'entretenir avec ce que je photographie, avec ce qui m'entoure, d'être beaucoup plus présente. Peut-être à d'autres formes de vie, comme les végétaux, voilà, enfin, aux formes de vie qui existent et que j'essaie de photographier ou de capter, et de les mettre en scène aussi, enfin, tout ça, et d'être plus présente et d'être plus attentionnée au moment de la photographie, à ce qui se passe à ce moment-là. Voilà, je crois que ça a aiguisé, ça a affiné. La relation que j'entretiens avec ce que je photographie, en fait.
C'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que, Thérèse, je voulais vous écouter sur ça. Il y a non seulement l'art de l'attention que vous avez dévoilé et justement identifié dans l'œuvre de Manuel, mais vous parlez aussi d'une éthique de soin. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus?
Oui, bien sûr, pour moi, c'est un aspect très important de la question de l'attention. Il faut un peu jouer avec ce mot. Derrière l'attention, il y a aussi le faire attention à. Et faire attention à, c'est déjà se rendre compte de l'existence ou de l'importance potentiellement de cette chose, que ce soit en végétal, en minéral, en humain, en paysage, en phénomène de lumière. Donc faire attention à, c'est déjà potentiellement se préoccuper de cette chose, c'est déjà potentiellement en prendre soin. Donc, dans derrière l'attention, il y a ça aussi. C'est accorder de l'importance à quelque chose qui est parfois noyé, justement, dans le réel, qui peut passer inaperçu. Alors la question de la démarche du protocole de Manuela me semble aussi importante, parce que Manuela, il me semble qu'elle passe du temps. C'est-à-dire, les images ne sont pas générées rapidement. Il ne s'agit pas de produire des images juste parce qu'il faut produire des images. Je pense qu'il y a une vraie réflexion sur à quoi ça sert de mettre une image dans le monde. Et que tout est lié à cette question, en fait, du faire attention à et de s'occuper d'eux. Donc, la question du soin, elle est là. Mais je pourrais dire aussi que la question de l'attention est une façon, encore une fois, d'être, de se mettre en rapport avec les autres, hein, que ces autres soient des humains ou des non-humains. Et c'est une façon d'être au monde, être dans le monde. J'écoutais Manuela raconter comment elle avait fait cette résidence perdue au milieu de nulle part. Et à partir d'un moment donné, elle se posait la question, et maintenant ? Voilà, qu'est-ce que je vais photographier? Et vraiment, pour moi, la question de l'attention et du soin, elle est là. Dans cette disponibilité envers ce qui nous entoure et cette capacité aussi, je pense, in fine, à nous inviter en tant que spectatrice, spectateur, à nous rendre disponibles, à accueillir ça quand on regarde les images. Donc voilà, je pense que derrière le mot attention, effectivement, il y a des choses qui sont liées à ce soin, à se faire attention à s'occuper de, à passer du temps, à être disponible. Voilà, c'est ce que j'entends par ça.
Merci beaucoup. Il y a un autre élément que j'aimerais bien, une autre question que j'aimerais bien poser. Manuela, vos photographies, et c'est peut-être lié aux soins et à l'attention, peut-être. Manuela, en tant que spectatrice, vos photographies me semblent très silencieuses. Je m'explique. J'ai toujours l'impression qu'elles ont été prises dans le plus grand silence. Est-ce que c'est vrai ou non?
Bien, oui, forcément. Enfin, ça dépend de quelle photographie, à quelle photographie vous faites allusion, mais oui, parce que il y a tout un type de travail où effectivement je m'installe quelques semaines et puis je suis dans un endroit. Il n'y a pas un silence absolu, mais voilà, enfin il y a le beau silence, il y a le beau silence de la nature, quoi, du vent qui passe dans les arbres. Enfin, il y a tout ce son magnifique. C'est pas du silence, moi j'appelle pas ça du silence, mais plutôt un confort d'écoute et on n'est pas, je suis pas dans l'excitation, la précipitation, quand je suis au travail, en fait, je, par exemple, il y a deux ans, j'ai passé un été pour faire 7 minutes de vidéo, mais ça durait des semaines. Mais c'est formidable. Enfin, j'ai appris, comment dirais-je, j'ai appris avec le temps, en fait, que c'était pas tellement une histoire de faire un travail, une série, une quantité d'images. En fait, moi, je suis pas là-dedans, quoi. Je suis pas là-dedans. Donc, c'est peut-être ça pour vous, le silence. Je sais pas. Moi,
j'explique autrement.
Oui, parce
quand
que
on voit des photos des pierres ou alors des reflets de l'eau des arbres et des boules de savon, il y a toujours des éléments, comme on a parlé au début. On sent que l'élément naturel, il est là. Il occupe beaucoup d'espace dans l'image et ça, c'est complètement lié à ce que Thérèse vient de dire. Par rapport à l'attention, le soin, cette méthode, ce protocole, et on le sent. Et pour moi, ça me transmet une idée de grand silence, d'une grande concentration pour le faire, pour donner de l'attention et du soin à cette parfois mise en scène, parfois non.
Oui, oui, enfin, oui, c'est comment dire, c'est concentré quoi. Enfin, c'est calme, c'est calme, et concentré et puis. Et puis, faut faire ça très doucement, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, parce que j'essaie de me dire, mais c'est comment ? Alors, c'est comment ? Il n'y a pas de silence, il y a des oiseaux, il y a du vent, il y a toutes ces choses avec lesquelles j'aime vivre, hein, le plus possible. Mais bon, voilà, mais nous tous, nous toutes, on aime ça aussi. Mais voilà, après, voilà, ça se fait calmement avec ce qui se passe... avec ce qui peut arriver pendant que je travaille, quoi. Donc, toutes ces choses où il faut recommencer, parfois, recommencer. J'aime beaucoup mettre des choses en équilibre aussi, par exemple. J'ai tout un travail de choses en équilibre et très certainement, j'ai un projet cet été avec ça. Voilà, bien pour mettre des choses en équilibre, des petits éléments qui tiennent peut-être des grands ou des grands des petits, enfin voilà, tous ces moments-là, bah il faut être vraiment il faut avoir une, voilà, être dans une sorte de calme déjà du geste et donc forcément un peu intérieur, et j'aime beaucoup être dans ce calme intérieur, voilà, parce que je suis pas toujours dans cet état-là, mais j'aime beaucoup être dans cet état-là de temps en temps. Et mettre des choses en équilibre entre elles sans rien qui colle. Enfin, voilà, juste trouver le moment exact où elles tiennent entre elles. Et j'aime beaucoup ce travail, mais pour ça, il faut consacrer du temps, etc. Voilà, donc il faut être... silencieux.
Et très patient.
Ouais, mais c'est vachement beau quand ça arrive. Quand tout d'un coup, ça tient comme ça. Moi, j'ai commencé à faire ce travail pendant le confinement, en fait, parce que ça me permettait de... J'avais ouvert plein de boîtes comme ça dans mon atelier où je garde des bribes de choses que je ramasse. Et je crois qu'on fait plus ou moins... tout le monde fait plus ou moins ça. Hein. Mais voilà, j'en avais plein. Mais il y avait aussi des bouts de cire. Enfin, il y avait plein d'éléments très, très disparates, etc. Et j'ai commencé à faire ça, à faire tenir des éléments, une pierre avec de la cire, avec je ne sais pas quoi, avec du végétal, avec un bout de branche. Et ça me prenait évidemment des heures, quoi. Mais après, ça calme. Hein.
Très bien, nous sommes presque à la fin de cette émission d'Aligre FM Lusitania. Je voudrais terminer entre guillemets cette émission avec Thérèse et un regard d'une chercheuse qui s'intéresse beaucoup au cinéma, à l'image, au paysage, à la mise en scène des histoires qu'on peut raconter par les images. Et Thérèse, je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans l'univers visuel de Manuel ?
Alors, il y a beaucoup de choses qui me touchent et il y a beaucoup de choses que j'aime. J'ai effectivement une grande sensibilité envers les éléments, le végétal, le minéral. J'adore quand ça se confond et je ne sais pas très bien ce que je vois et c'est comme un petit mystère qui m'est montré. Mais fondamentalement, et je me répète parce que je pense que je l'ai déjà dit, pour moi, ce qui me touche le plus dans les photographies de Manuela, c'est qu'elle... Pour moi, elles répondent à la question « Qu'est-ce que la photographie est capable de faire que la littérature ou la peinture ou même le cinéma ?» Évidemment, j'adore le cinéma. Ne font pas ou font autrement. Et pour moi, les photographies de Manuela, elles retiennent vraiment ce pouvoir, cette puissance plutôt de la photographie, qui est celle de nous faire voir le réel, parce que le réel est là, mais le réel nous est montré d'une façon qui pour moi est complètement... alors, c'est pas complètement nouvelle, c'est peut-être pas la meilleure façon d'expliquer, mais... ça devient un peu magique. Il y a quelque chose, c'est le réel est transformé. par ce regard qui est le regard à la fois de Manuela accompagnée de son appareil, parce qu'il y a un compagnonnage avec cette, cet appareil photographique, et le monde nous est, le réel nous est montré d'une autre façon. C'est toujours le réel pour moi, mais ça devient voilà, ça devient quelque chose d'autre, et je l'avais jamais vu comme ça. Et donc dans cette joie de découvrir quelque chose que je n'avais jamais vu comme de cette façon-là, et qui est partagé avec moi avec beaucoup de générosité, comme si c'était je partage avec vous en petit secret, pour moi c'est ce qui me touche le plus.
Cette apparition et révélation dont vous parlez dans le texte.
Exactement.
Comme moment révélateur.
Révélation. Donc ça, c'est très, vraiment, c'est très jouissif pour la spectatrice et pour le spectateur, qui est très content.
Merci beaucoup.
Merci. Manuel, vous avez évoqué tout à l'heure un potentiel projet pour l'été. Je voulais vous demander si vous avez des projets en cours artistiques, et sinon, quels seraient vos souhaits?
Alors, oui, en fait, là, en ce moment, j'ai une exposition à Fribourg qui a verni la semaine dernière, en fait, dans le cadre de la Biennale de Mulhouse. Mais moi, je suis du côté allemand, avec grand plaisir. Donc ça, c'est une exposition qui va durer jusque mi-septembre, je crois. Et puis, il y a une résidence en fin d'année qui va se faire à la Maison Salvan. Là, je serai en résidence avec une amie dont j'apprécie beaucoup le travail, et je suis très curieuse de voir ce que la résidence ensemble va donner, qui est Gabriela Albergaria. Voilà. Et puis des expositions collectives, un film qui va être fait sur mon travail aussi cet été aussi. Voilà. Voilà, je pense qu'il doit y avoir plein d'autres choses, mais je pense que j'oublie un peu ce qui va se passer dans les mois qui viennent.
C'est pas grave, j'en suis sûre qu'on sera là pour accompagner tout ça. Merci beaucoup à vous deux d'être sur l'antenne d'Aligre FM et Lusitania. Avant de vous quitter et vous voir la semaine prochaine, j'aimerais bien vous laisser avec un autre morceau choisi par Manuel, Un monde nouveau de Fausch Atherton, pour nous laisser plein d'espoir et d'inspiration. Et je vous dis à très bientôt, un grand merci et à la semaine prochaine.
Merci Anna. Merci.
Un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillé. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien, tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Oh.
s'attraper dans les bras, ça on ne pourrait se prendre dans les bras, s'attraper dans les bras.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.